Je voudrais partager avec vous quelque chose que je vais introduire ainsi. Des textes de la parole de Dieu, c'est plus une rencontre aujourd'hui thématique. Le culte sera plus orienté vers quelque chose de spécifique. Merci. Qui parmi nous, à la lecture de la parole, n'a jamais été embarrassé dans sa compréhension de certains passages et de ce texte-là, il a fallu plusieurs méditations. Peut-être on l'a mis de côté pendant des années, des mois, et on est revenu ou on a entendu des choses qui nous ont éclairés. Et au fur et à mesure qu'on avance à la vie chrétienne, on s'aperçoit que le texte s'éclaire, la parole de Dieu s'éclaire, et on la comprend de mieux en mieux. Mais souvent, on bute sur des choses, et on peut buter encore sur des choses. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la parole de Dieu et il n'y a pas de problème pour la compréhension, la révélation? Vous savez tout? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Venez à ma place alors, hein? La difficulté provient aussi du fait que cet ensemble, cette bibliothèque de livres, il y a des livres poétiques, et la poésie hébraïque, on le sait, par exemple, n'est pas du tout la poésie française, c'est pas du tout les mêmes approches, les mêmes réflexions, ce qu'on a appris à l'école enfant, du moins si on l'a retenu, c'est pas du tout les mêmes choses. Ensuite, on sait que ça parle de textes, d'événements qui sont passés à une époque lointaine, et non seulement c'est loin dans le temps, mais c'est aussi de cultures différentes. Il y a des us et des coutumes qui sont différents. Et l'histoire des peuples qui sont mentionnés dans la Bible peut nous échapper, cette histoire-là. Qui plus est, pour rajouter encore la difficulté, comme l'Ancien Testament est écrit en quoi ? Globalement, en hébreu, et le nouveau, en grec. Vous savez que chaque mot est traduit et voilà, il peut y avoir plusieurs significations pour un mot hébreu, même en grec, il y a beaucoup de significations, ce qui fait, alors certains pourraient parler mieux que moi de cela, ce qui fait qu'il y a des traductions qui sont là et diverses traductions qui peuvent être là. Qui plus est, on rajoute encore, et ce n'est pas le sujet, mais je vais rentrer dans mon sujet bientôt, le vocabulaire actuel que nous utilisons en français s'appauvrit, par exemple, par rapport au siècle passé. Même si je suis né dans le siècle passé, je ne suis pas nostalgique, d'accord ? Mais ça s'appauvrit, par rapport au siècle passé. Par exemple, je ne sais pas si je vous donnais cet exemple, la dernière fois que je suis intervenu dans le groupe de jeunesse dans l'Assemblée d'Albi, j'ai osé parler, à un moment donné, j'ai dit « je vais utiliser un verbiage que tout le monde comprend ». Et là, j'ai vu deux jeunes filles qui rigolaient, parce qu'elles ne comprenaient pas ce que ça voulait dire verbiage. Donc même là, je me suis perdu et j'ai rigolé parce que je me disais au fond de moi, on perd, et ce n'est pas une critique, parce que c'est comme ça, ce n'est pas du tout une critique ou un jugement, mais on sait très bien que les versions, par exemple, français courant, etc., elles ont beaucoup moins de vocabulaire que certaines autres versions. Mais vous avez des spécialistes de la langue ici, donc vous pourrez voir avec eux à la sortie. De plus, les termes bibliques, et c'est là où je veux en venir, les termes bibliques employés pour définir, par exemple, ce que Dieu a fait, ont une amplitude de compréhension, sont très vastes en fait, englobent des choses importantes, mais c'est très, parfois difficile, je ne sais pas vous, mais quand on se convertit à l'évangile, on comprend la grâce, et c'est formidable, extraordinaire, mais alors les mots qui s'attachent et qui sont interdépendants, on est un petit peu perdu, et ce n'est pas grave, tant mieux si on est sauvé, parce qu'on est sauvé non pas par la connaissance, mais il faut connaître quand même la grâce de Dieu, bon, je ne vais pas rentrer dans des discussions sans fin, mais ces mots sont compliqués. Par exemple, je vais démarrer, il faut que ça se connecte, voilà. Le mot justification, on peut le comprendre assez facilement, je me suis décalé pour que tout le monde puisse voir, je ne sais pas si vous voyez, il y a le mot sanctification. Je suis sûr que si on se posait la question les uns les autres, on écrivait quelques lignes, on aurait quelques différences ou quelques complémentarités qui ne seraient pas énoncées chez l'un et l'autre oui, etc. Le mot régénération, là c'est assez plus simple. Le mot rédemption, alors là c'est vaste, rédemption, c'est large. Et puis ça vient d'une notion de l'Ancien Testament qui est spécifique. Le mot conversion, là encore je dirais c'est assez simple. Le mot adoption, là aussi on le comprend. Le mot substitution, on ne l'utilise pas tous les matins, du moins je pense. D'ailleurs, on substitue ce mot avec un autre mot. Bon, voilà. Et le mot propitiation. Ah oui, vous avez bien fait de venir ce matin. Donc nous voyons tout ça, c'est des termes bibliques et des termes importants. Des termes qui sont le socle de notre foi et de notre engagement avec Dieu. Et chacun de ces mots englobe plusieurs notions qui sont des fois complémentaires, concomitantes ou interdépendantes les unes avec les autres. Et c'est difficile pour nous, des fois, de savoir... quelqu'un va dire le mot « rédemption », mais pour lui, c'est sous cet angle aspect-là, mais il y a d'autres aspects. Et l'autre va le dire ainsi, et on peut être surpris. Alors, on pourrait faire l'économie d'utiliser ces mots-là, parfois. Mais pour comprendre ce que Dieu nous a enseigné, il faut comprendre certains mots. Je ne dis pas de tout savoir, hein, mais il faut comprendre les mots de ce que la parole de Dieu nous dit. Alors ce matin, on va s'arrêter sur celui-ci qui ne plaît pas. Généralement, quand on le dit de suite, ça nous laisse une espèce de pensée, peut-être, je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que j'entends le mot sanctification, je me dis comment ça va être abordé, qu'est-ce qu'on va me dire et qu'est-ce que la Bible me dit. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Je vous le mets là pour ceux qui auraient des problèmes, vous n'avez pas votre Bible, vous avez du mal à chercher. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 3. Pardon, à partir du verset 3, je me trompe, du verset 3 au 8, on va aller. Hein. Je vais le lire sur ma tablette parce que c'est la version un peu différente. Voici ce que dira l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. Vous y êtes. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use en faire son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint ou son Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors voici ce qu'on va aborder ce matin. Je vais rentrer dans une approche assez basique, mais qui est importante de nous rappeler, je le crois. C'est qu'on va donner quelques précisions, et je vais vous donner quelques précisions bibliques sur la sanctification. Vous comprenez qu'on ne pourra pas tout cerner aujourd'hui. Je voudrais parler de trois étapes dans la sanctification, et puis ce qui affecte la personne dans son ensemble. La sanctification, pardon, affecte la personne dans son ensemble, et on l'a vu dans ce texte, certains aspects. Voilà. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est bon pour nous de comprendre. Il y a des gens, ils pensent qu'il faut l'Esprit Saint, et c'est vrai, la Bible dit que l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses, mais la Bible nous a été laissée pour nous enseigner aussi. Et nous devons connaître la parole, non pas de la connaître intellectuellement, mais comprendre spirituellement cette parole pour la vivre. Et ce matin, je ne voudrais pas juste faire, je ne sais pas, une école biblique, je ne sais pas, un cours, là, mais je voudrais juste partager ces choses pour que ce qu'on apprend ou ce qu'on se rappelle puisse produire en nous quelque chose de particulier. Alors qu'est-ce que la sanctification, finalement? Je suis sûr qu'on aurait peut-être des nuances. Et il y a des aspects peut-être que je ne vais pas développer ce matin. La définition de la sanctification, on pourrait la donner ainsi. C'est une œuvre progressive à la fois de Dieu dans nos cœurs et de l'homme. Hein, c'est-à-dire nous qui sommes réceptacles, nous qui sommes enfants de Dieu. Et tout ce que nous avons lu, c'était pour l'enfant de Dieu. Qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre quotidien. Hein, ce n'est pas juste le dimanche qu'on doit être sanctifié. C'est dans le contexte de notre quotidien. Ça, c'est important de nous le rappeler, c'est nécessaire. J'aimerais, avant d'aller plus loin, faire un comparatif. Et je disais tout à l'heure, il y a des notions qui sont des fois interdépendantes ou juxtaposées, concomitantes. Et si vous regardez la justification, par exemple, on va faire la comparaison entre la justification selon la Bible et la sanctification dont on partage ce thème maintenant. La justification, c'est un statut légal devant Dieu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été justifié, on est justifié. C'est statut légal, c'est juridique, devant Dieu. La sanctification, c'est une condition intérieure. C'est-à-dire, c'est dans le cœur, c'est chacun d'entre nous. En venant, je pensais à ça. Je vais le dire à un autre moment. Excusez-moi, là-dedans, ça s'embrouille un peu. La justification a lieu une fois pour toutes. On a été justifié. Jésus, il est mort une fois pour toutes, pour chacun d'entre nous, et de ce fait, celui qui croit, il est justifié dans la grâce de Dieu. Mais la sanctification, est-ce que c'est une fois qu'on est sanctifié? Il y a deux aspects, on pourra en parler tout à l'heure, c'est tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'il a écrit tous ces textes-là, pour encourager chacun d'entre nous à nous sanctifier, pas à être des apparents parfaits, mais des hommes et des femmes qui sont honnêtes devant Dieu et qui cherchent à être transformés, à ressembler au Seigneur de plus en plus et aller plus loin. La justification, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Nous savons que c'est, voilà, la justification, c'est pour ça que Jésus a dit tout est accompli, pour dire ça y est, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que l'être humain soit sauvé. Alléluia, heureusement. Si ça n'avait pas été fait ou s'il fallait rajouter des choses, ça serait terrible. Mais nous, dans la sanctification, on y participe. C'est notre décision. C'est notre volonté qui se met en route pour dire j'aime Dieu et comme je veux plaire à Dieu, comme je veux être, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je veux marcher dans ses voies. C'est pas chose simple dans ce monde de ténèbres. Pas chose simple dans ces mondes de tentation. Et c'est pas toujours simple. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Alors quand on partage ça, on pense à soi, là, à ce moment-là, un petit peu. Et pensez pas à l'autre à côté de vous, même si c'est votre mari, votre femme, hein. Ça va, vous êtes avec moi. La justification, elle est parfaite dans cette vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à rajouter à la justification que Dieu a pourvue pour chacun d'entre nous. Alléluia. Par contre, dans la sanctification, c'est jamais parfait dans cette vie. C'est-à-dire que, on le verra tout à l'heure, c'est seulement à un certain moment que la perfection sera là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, excusez-moi, se sanctifier, hein. D'accord, hein, parce que c'est facile de dire, nul n'est parfait, donc je fais ce que je veux. Non, nul n'est parfait, certes, mais Dieu m'invite à être sanctifié. Hein. Rappelez-vous, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La justification, c'est la même pour tous. Elle est identique pour chacun de ceux qui croient. C'est vrai, hein, il n'y a pas de différence, c'est le même, que je sois, un mécréant qui est en prison, qui se convertit, il a la même justification, il a accès à la même grâce de Dieu, il est justifié par Dieu parce que Jésus, il a été crucifié pour justifier tous les êtres humains qui croient en lui. Pas selon leur mérite ou pas, parce que c'est dramatique, hein. Par contre, la sanctification, elle est différente selon les personnes, selon chacun d'entre nous. Il y a des gens qui désirent, et des frères et sœurs, et des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui veulent aller plus loin dans l'engagement, et parfois d'autres, ils restent un peu plus en retrait, et c'est différent. Et au travers de ce tableau, on s'aperçoit que la sanctification, finalement, si vous regardez la colonne de droite, est un processus. C'est pas un acquis, une fois pour toutes, et ça y est. Même s'il y a une part de sanctification quand on est né de nouveau, j'en parlerai là tout à l'heure. Ça va, il y a pas. Si vous avez des questions, on se voit tout à l'heure à la sortie et on en parle ensemble. Je voudrais voir avec vous maintenant quelque chose qui me semble important de nous rappeler. Tout ce que je vais dire là, vous le savez, hein, je n'ai pas prétention de, mais je le pense qu'il c'est bien de contourner ou cerner un petit peu les aspects de cela pour nous encourager à aller plus loin. Nous étions esclaves du péché en bas. Il y avait nous étions soumis à la puissance de Satan, dans les péchés jusqu'au cou, embourbés dans tout un tas de situations. Et nous avons vécu ainsi, avec des hauts et des bas. Ça a été toujours un petit peu compliqué. Mais voici, ça s'est pas fini comme ça, heureusement. Voici qu'un jour, on entend retentir la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu au siècle passé, ici? Levez la main pour voir, c'est juste pour faire un petit sondage. Voilà. Est-ce que c'est que dans ce siècle que vous l'avez entendu? Levez la main, si vous êtes converti. Il y a tous les jeunes qui devraient lever la main. Hein. Voilà. Et oui, on a entendu l'Évangile retentir. On a non seulement entendu un office religieux, une prédication, mais on a entendu le Seigneur nous toucher par son esprit dans nos cœurs. Il nous a montré toute sa grâce, il nous a montré tout son amour, et nous avons été bouleversés. Et ça, c'est ce moment de ce qu'on appelle la conversion, ce moment où je suis convaincu que je suis pécheur, que je suis loin de Dieu, à côté de la plaque, et en même temps, l'Esprit me dit, regarde, Jésus, il est mort pour toi. Et alors, tu reçois la grâce de Dieu parce que tu te repens, tu abandonnes tes péchés, tes fardeaux au pied du Seigneur, et tu dis, il faut que ça change, il faut, pardon, j'avais pas compris. Et Dieu, dans sa miséricorde, te justifie, te purifie, et te fait naître de nouveau. Et là, tu entres dans la sainteté. Tu vas commencer, maintenant que tu es né de nouveau, à ne plus vivre dans la partie du bas, l'esclavage du péché, Mais tu vas vivre maintenant dans une dans la vie avec Dieu. Et comme un nouveau-né, ben, il grandit, de même, nous grandissons dans la marche avec Dieu. Hein? Et ça, c'est important. C'est important. J'avais mis beaucoup de versets, mais je passe assez vite. Là. C'est la première. Ce changement donc, qu'on voit ici, où on voit la croix, c'est le moment où vraiment nous sommes régénérés puissamment. Dans notre vie, il y a eu quelque chose qui s'est passé au fond de notre cœur. Nous avons le même physique, la même personnalité, dans le sens même personne, nous sommes la même personne. Mais au fond de nous, il y a une libération. Au fond de nous, il y a un changement. Au fond de nos conceptions, tout a été bouleversé. Et maintenant, je peux vivre selon ce que Dieu veut. Alléluia. Je sais que vous savez ça. Hein. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi ? Une nouvelle créature. Hein. Donc, il y a un passé qui est là, et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et deviennent nouvelles encore et encore et encore, parce qu'il est nécessaire que beaucoup de choses aillent de l'avant. Ce changement, c'est la première étape de la sanctification. Ce que certains diront, c'est la sanctification instantanée, c'est-à-dire instantanée au moment où on s'est repenti, il y a des choses qui ont été enlevées, ôtées, le péché, les conséquences du péché. Alléluia. Mais il y a aussi le processus de sanctification, on va en parler. L'apôtre Paul dira, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cette étape-là, ce passage, implique une rupture définitive avec la domination du péché dans sa vie. Personne ne peut être sauvé à moitié. Ou on est sauvé ou on n'est pas sauvé. D'accord ? Ou on est enfant de Dieu ou on ne l'est pas. On ne peut pas être entre deux. Et il faut savoir se situer, il faut comprendre ça, parce que c'est nécessaire. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des instructions baptême, avec les anciens de l'Assemblée, nous quand on fait des instructions baptême, on partage ça non pas pour dire « toi tu peux pas seulement », mais c'est surtout pour dire « est-ce que tu es né de nouveau ?» Vérifier avec la personne est née de nouveau, parce qu'il ne faut pas qu'elle se trompe. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait tomber dans le baptistère qu'elle est née de nouveau. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Cette étape donc implique une rupture définitive avec la domination et l'amour du péché, parce qu'on peut aimer le péché. De sorte que le croyant n'est plus esclave du péché et n'aime plus péché. C'est là, normalement, ce changement aussi dans son cœur. C'est nécessaire. Hein? Regardez l'apôtre Paul, il va dire par exemple, je vous cite plusieurs versets, Romains 6, 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc c'est une mise à part. On dit aussi que la sanctification, c'est une mise à part pour servir Dieu, pour honorer Dieu, pour plaire à Dieu. C'est une différence évidente avec son ancienne vie. On voit bien un changement, il y a un avant et il y a un après. Et c'est une évidence, c'est un changement complet. Alors, deux pensées peut-être pour cet aspect-là, parce qu'on peut croire des choses des fois un peu erronées. Il y a une pensée générale qui des fois, dans certaines, pensée générale, pardon, une doctrine qui est enseignée par rapport à ça, dans certains milieux peut-être évangéliques, je ne juge pas, hein, mais juste j'amène cette réflexion. Quelqu'un peut dire « je suis totalement libre du péché tout le temps ». Je suis totalement libre du péché, je ne pêche plus. J'ai entendu ça il y a très longtemps dans une église. Et alors, pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Si on était sanctifié complètement et libre de tout péché, parfait en tant que chrétien ici-bas, on n'aurait pas besoin de tous ces versets qui nous disent « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » S'il faut rechercher la paix avec l'autre, c'est que peut-être j'ai un conflit avec l'autre. Et donc, est-ce que je suis dans la sanctification ? L'apôtre Pierre va dire « Comme des enfants, 1 Pierre 1,14, des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Si on était sanctifié pleinement, totalement, ici-bas, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, dès qu'on est né de nouveau, on n'aurait pas tous ces versets qui nous invitent vraiment à faire des choix, à pardonner, à résister, etc., etc. L'apôtre Paul, il parle à Timothée, en Timothée 1, 19, « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, de ce nombre sont éminés, et Alexandre, que j'ai livré à Satan, fait qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Donc on voit bien qu'il y a là, il n'y a pas cette réalité de la sanctification permanente, parfaite, pour le chrétien tout le temps. Ça n'existe pas. Parce que les textes bibliques sont clairs. Ça, c'est une pensée qu'il faut peut-être être convaincu. Une autre pensée, c'est quand quelqu'un dit, par exemple, quelqu'un qui aime peut-être un caractère un peu dur, un peu spécial, qui dit « Cela fait 30 ans que je suis chrétien, vous comprenez, mes parents m'ont fait ainsi. » On me l'a dit deux ou trois fois, ça. Je dis « Bienvenue au club, moi aussi, mes parents m'ont fait ainsi. Hein » donc, vous comprenez, c'est plus fort que moi. Acceptez-moi comme je suis, un point, c'est tout. Hein ? Un point, c'est ça, un point, c'est tout. Hein ? Dire cela, ou le penser au fond de soi, c'est reconnaître la domination du péché, quelque part. Et si ça vous est vaincu, vous croyez que Dieu est vaincu par des choses ? Vous croyez que Dieu ne peut pas changer, excusez-moi le terme, une tête de mule à une tête normale ? Hein ? Donc vous croyez que Dieu ne peut pas bouleverser quelqu'un ? Il a la toute puissance, il pourrait le détruire sur place. Mais il a sa patience et son amour. Et ce qui honore Dieu, c'est qu'on ne reste pas dans l'état où on pense que ça suffit. Ce qui honore Dieu, c'est qu'on sache se remettre en question, sans tomber dans une forme d'auto... Vous savez, quand on parle de sanctification, des personnes, elles sont de l'auto-accusation permanente et elles se touffent elles-mêmes. On n'y va pas y arriver par soi-même, on n'y va que par le Christ. Et il ne faut pas se tromper. Hein ? Donc, ainsi, c'est parce que si on parle comme ça, c'est désobéir à l'Écriture qui va dire ceci dans Romains 6. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Je l'ai lu tout à l'heure. Hein, « Et n'obéissez pas, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. » Donc vous voyez, il y a deux pensées qui peuvent être exagérées, sur lesquelles il faut pas les accepter, il faut pas croire qu'il ne faut pas s'y installer. Des fois, on peut réfléchir, on peut s'ajuster, mais c'est nécessaire de revenir au bon, je dirais, un bon équilibre. Alors, quand on est né de nouveau, certains pensent que la vie chrétienne, c'est comme ça. Je l'ai mis en gris clair, hein, une ligne exponentielle, droite. Est-ce que c'est comme ça ? Eh bien non, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça. Hein. Chacun son électrocardiogo-foi, je ne sais pas comment on pourrait dire. Hein. Chacun son truc. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, il y a des hauts et des bas, il peut y avoir aussi un retour, un abandon. Bon, mais ce n'est pas ce que Dieu veut, donc je ne l'ai pas présenté. Il y a plutôt, voilà, et la durée de l'espèce de schéma de courbe, elle est plus ou moins longue selon notre vie avec Dieu et le temps qu'on va vivre. Hein ? Il y a hauts et bas, ça devient une évidence. Quand on est né de nouveau, on apprend vite au bout de quelques jours, hein ? Voilà, on a fait des baptêmes il n'y a pas longtemps, on a fait 6, et il y a un jeune là, à chaque fin de réunion, encore mardi, il me dit « Excusez-moi, je peux vous parler ?» Je dis « Tu peux me parler, il n'y a pas de problème, hein, je suis là pour ça aussi. » Il me dit « Mais il y a des épreuves et tout ça, il expliquait. » Et je me disais « Bon, il comprend, et tout je dois les réalités de la vie nouvelle, c'est un combat, mais il y a la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Hein, il y a eu des hauts et des bas. La vie chrétienne n'est pas rectiligne. Et la parole de Dieu est claire, c'est un processus, on va aller de l'avant. » Par exemple, je vous lis de Corinthiens 3, 18, mais dans la transcription moderne, c'est-à-dire quelque chose qui est amplifié, il y a plus de mots. Vous savez, quand il est dit « Or c'est sans voile » de Corinthiens 3, 18, « le visage découvert, que nous tous nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement. » Car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Alléluia. Vous voyez, l'intention de Dieu est que Dieu nous a donné son esprit pour nous conduire dans toute la vérité, mais aussi dans la vérité de ce qu'il attend de nous. La vérité de qui il est, la vérité des situations, et la vérité de comment je dois me comporter dans la vie. Et l'esprit de Dieu en nous a ce but de nous transformer, de changer nos cœurs. Voilà. Alors, souvent, quand on regarde ce qui reste à faire comme chemin dans nos vies, on se dit, waouh, il faudrait que je vive 300 ans. Et on peut se décourager. Mais il faut aussi regarder les progrès. Et quand Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous, ce n'est pas qu'au début de sa foi, au début de sa vie chrétienne. Vous rappelez, un jour, Dieu... Comment dire Dieu ? On va chercher... Non, je vais le dire autrement. Le serviteur va aller, pardon, vers cette femme qui devait être choisie pour épouser Isaac. Vous rappelez ce récit dans la Genèse ? Le serviteur va, donc, par un concours de circonstances que Dieu va prévoir, voici qu'il va... Rebecca est sollicitée, il va y avoir toute une, vous savez, un échange, etc. Et puis maintenant, c'est le moment de partir et de rencontrer le futur époux. Donc elle chemine à la suite du serviteur. Alors peut-être Eliezer, mais bon, peu importe. Elle va traverser entre l'endroit où elle habitait jusqu'au moment où il faut aller vers Isaac. Elle va traverser tout un tas de choses. Et ça, c'est l'image de l'enfant de Dieu, de l'Église, qui va cheminer dans ce monde. Et ce n'est pas chose simple, mais pour aller jusqu'à la rencontre de l'époux. Et la sanctification, c'est cette part de cheminement dans ce monde. On n'est pas hors du monde, même si dans notre cœur, on est hors de la mentalité du monde, mais on a un cheminement à accomplir. Et ce cheminement nous amène vers le Seigneur. Un jour, nous le rencontrerons, et plusieurs l'ont dit. Vous savez que dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?» Et on a dit, et on est d'accord de dire, c'est l'image, bien sûr, de... du Seigneur qui vient et qui est là et qui soutient sa bien-aimée, hein, l'Église de Jésus-Christ. Et si on regarde dans la Bible, on voit bien que ce cheminement du désert, donc de chez Rebecca jusqu'à la maison d'Isaac, il devait y avoir peut-être des brigands, peut-être il y avait des déserts, il y avait peut-être tout un tas de choses qu'ils allaient subir. Ils étaient, c'était pas 300 avec une armée, c'est eux deux, peut-être il y avait quelques serviteurs en plus, je ne sais. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit, c'est qu'elle a été jusqu'au bout. Et nous, notre part, c'est parfois traverser des déserts, parfois être confronté à des situations qui nous font peur, parfois être menacé de toutes parts, mais nous voulons rester fidèles au Seigneur. Et là, le serviteur, c'est l'image, bien sûr, aussi de l'Esprit qui nous amène à cheminer jusqu'au bout et aller de l'avant. D'accord ? Donc, c'est important de continuer à cheminer. Si quelqu'un est découragé, si quelqu'un dit... Ah, c'est moi qui éteins. Voilà. Si quelqu'un est découragé, si quelqu'un... pense qu'il est prêt à jeter l'éponge. Non, mon frère, ma soeur, te décourage pas. Le chemin n'est pas terminé, mais bientôt il va être terminé. Seigneur, viens bientôt. Mais continue à cheminer. Ce serait dommage d'avoir fait 80% du trajet et d'abandonner la course. Ce serait fou. Hein? C'est pour ça que la parole dit mieux vaut la fin d'une chose que son début, quelque part. Mieux vaut l'arrivée, être certain d'arriver. Il y a quelques années en arrière, lors d'une réunion de maison, nous étions dans la ville de Carmaux, une petite réunion de maison, on était 7, 8, 10, je ne sais plus. Et je me rappelle qu'il y a eu un don spirituel dans une réunion de maison. Vous savez qu'on a le droit, hein ? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. On a le droit d'avoir un don spirituel. Il y a eu un don spirituel qui disait quelque part, ta course est bientôt finie, la ligne d'arrivée est là, mais regarde celui qui t'appelle, il t'appelle et t'encourage. Et bon, ce don, voilà, il y avait tout un tas de choses. Et ce don a été donné. Et une mamie, je me rappelle, qui a dit ça, c'est pour moi. Et moi, j'étais embarrassé. Je disais, bon, là, la pauvre, c'était un don d'encouragement, mais quand même, ça veut dire que tu vas partir, quoi. Hein? Alors j'étais là, je disais, comment je fais ? Sentimentalement, j'étais partagé, même spirituellement, comment j'ai fait ? Alors, j'ai fait semblant de rien. Je dis, mais vous savez, j'essayais d'un petit peu comme les Français font, on raisonne beaucoup. Baratin. Mais elle dit, c'était pour moi. Et en effet, un mois et demi après, la mamie, elle était en fin de vie. Elle est partie dans la gloire. Dans la gloire. Peut-être, je ne dis pas ça, mais je ne pense pas que ce soit prophétique là. Peut-être tu n'es pas loin de la fin de quelque chose. Pas obligatoirement de ta vie, je ne sais pas. Mais le Seigneur t'appelle. Il t'appelle et t'encourage. Écoute bien. Il t'appelle à aller jusqu'au bout. Ne dis pas, oui, mais je ne peux plus, ceci, cela. Ce n'est pas vrai. Quand il nous demande quelque chose, le Seigneur nous donne toujours la force d'y arriver. C'est lui, le sauveur. On va dire, c'est triste aujourd'hui. Non, ce n'est pas triste. Hein? Voilà. Voilà le jour où on sera parfait. Alléluia. Le jour où on quittera l'habitation, qui commence à être bizarre. Hein? D'accord ? Le jour où on quitte cette habitation, le jour où notre âme va entrer dans la gloire, alléluia, nous serons débarrassés de toutes ces choses. Hein, il nous tarde un peu quand même. Hein. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dira, il parle de l'attente, vous savez, pas l'attente A-N-T-E, hein, l'attente, l'habitation. Hein, l'habitation. du fait que le péché ne disparaît jamais totalement dans notre cœur, notre sanctification n'est jamais parfaite ici-bas. Ce n'est pas vrai. C'est seulement une fois que nous mourrons, notre âme va entrer dans la présence de Dieu. Ce sera formidable. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Et là, ça sera la sainteté parfaite. Alléluia. Là, vous pourrez gonfler l'auréole. Hein ? La sanctification de notre âme sera parfaite à ce moment-là. Mais notre corps devra attendre la résurrection. Quand Jésus va ressusciter les morts, premièrement ceux qui sont morts en Christ, et alors il y aura une perfection complète, une rédemption complète, etc. Je vais bientôt finir, ne vous inquiétez pas, j'en ai encore pour 15 tableaux. Ça affecte la personne dans son ensemble, la sanctification. Hein. Je vous donne quelques extraits de versets, je ne vais pas les citer, ce serait un peu long, si vous avez connoté nos télés. Hein. Le premier, c'est Philippiens 1:9 et Romains 12:1. De plus, en plus, connaissance en pleine intelligence. Ça parle ici, bien sûr, que Dieu veut sanctifier notre intellect et notre connaissance. Nos connaissances, quand on connaît la grâce de Dieu, elles sont renouvelées, voilà, mais elles ont besoin d'être rééquilibrées selon ce que la Bible dit et non pas ce que l'on pense. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, on est très sentimentaux dans la société. On aime le sentimentalisme et on ne fait que par sentiment. Et ça pourrait infecter le cœur de l'enfant de Dieu qui ferait tout par action sentimentale. Mais en fait, il ne doit pas faire par action sentimentale, il doit faire par action spirituelle. Et pour ça, il doit connaître la parole, afin que son intelligence soit renouvelée, son intellect et sa connaissance soient vraiment soumises à ce que Dieu veut, et non pas soumises à une espèce de sentimentalisme excessif que l'on trouve aujourd'hui. Ça rejoint ce que je vais écrire ici. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, et je parle là des sentiments aussi, c'est des versets qui nous parlent bien sûr de ces sentiments, et on peut se faire, on peut aller à l'encontre de ce que Dieu veut par sentimentalisme, alors que la Bible dit des choses très claires et très précises. Mais ça, ce serait peut-être un autre sujet. Rappelez-vous également, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et là, ça parle de la volonté. La volonté, personnellement, je pense que c'est un sujet qui devient de plus en plus important, parce qu'on peut savoir les choses, on peut avoir des sentiments pour les choses, et pas avoir la volonté de les accomplir. Pourtant, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas cette influence mentale, morale de la société qui fait que les hommes sont de moins en moins disposés à prendre des décisions ? Un coup oui, demain non, et après demain autre chose. Et alors que la Bible révèle que l'être humain est l'enfant de Dieu, lui, son oui est oui. Il demeure fidèle, ferme, comme Dieu ne change pas dans ses plans. Parce qu'il ressemble à son maître et il va aller plus loin. Bon, je ferme la parenthèse. L'apôtre dira aussi dans 2 Corinthiens 7:1, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Alors là, c'est pareil, on pourrait parler de la notion de l'esprit, esprit de l'être humain, hein, je parle là. Voilà. On voit bien que Dieu et l'individu coopèrent dans la sanctification. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. En fait, Dieu nous aime et nous sauve. Nous marchons dans la vie avec Dieu. Mais il nous invite à mettre notre foi et notre volonté en action. Il invite à ce que nous soyons matures au point de prendre des décisions qui lui plaisent. Et la sanctification, c'est cette démarche de cœur qui fait que, je peux me tromper, je peux des fois pécher, je peux des fois pas être correct, c'est vrai. Et j'ai besoin de me retrouver, de reprendre le chemin et de me décider pour le Seigneur. Parce que là aussi, certains diront que la sanctification, c'est que Dieu qui l'a produit dans le cœur. Oui ? Mais il y a quand même aussi l'homme, est acteur. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, dans la Bible, des expressions « faites tous vos efforts, abstenez-vous de toute immoralité », par exemple, « fuyez l'inconduite »,« éprouvez »,« résistez », et tous ces termes qui sont en fait un appel de Dieu pour que nous prenions des positions, pour que nous décidions pour. Tout ça... Tout ce dont on vient de parler, je vais conclure parce que j'ai déjà dépassé beaucoup de temps, j'avais d'autres choses à partager, une autre fois, Dieu voulant. Tout ça, en fait, c'est pour obéir à Dieu. C'est pour plaire à Dieu. Pourquoi on fait ça ? Pas pour se mettre des médailles, hein, et pour faire un concours entre nous. D'ailleurs, sur quels critères ? Pourquoi on fait ça ? Parce que Dieu nous le demande et qu'on aime Dieu. On veut lui plaire. On veut garder une bonne conscience devant Dieu. On veut être un vase d'un usage noble, même si on se sent si petit parfois et si frêle ou si fragile. On désire voir des individus se tourner vers Dieu. Comment ils peuvent voir la vérité si personne ne l'annonce et si personne ne la vit? Et nous voulons vivre la vie de Dieu, la puissance de Dieu. On veut que Dieu bénisse notre vie aussi, notre engagement. On ne veut pas rester passif. On veut dire, Seigneur, nous voici devant toi. Bien sûr que tout est pure grâce. Bien sûr que tout ce que je peux faire, c'est Dieu qui permet que je le fasse. Mais il me demande de le faire. Vous comprenez? Et c'est nécessaire. Alors je conclue. Parce que je conclue. Bien-aimé, dira l'apôtre Jean, je ne l'ai pas marqué, 1 Jean 3:2. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Vous vous rendez compte de le projet de Dieu? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Alléluia. Je suis frustré, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais on va prier ensemble. On va prier ensemble. Notre Dieu, nous te louons pour l'amour que tu as manifesté pour chacun d'entre nous en donnant ton Fils. Nous te rendons grâce pour ta parole. Et notre prière ce matin, du moins la mienne, est que non seulement nous comprenions les principes que tu nous as laissés enseigner dans ta bonne parole, mais comme tu l'as dit lorsque tu as lavé les pieds aux disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Dépose en chacun de nous, ce vif désir de te plaire et de t'honorer. Nous refusons que l'esprit du monde ait l'avantage sur notre foi et qu'il érode notre vie avec toi. Bien au contraire, Seigneur, nous voulons marcher selon l'esprit. Et comme le dira David, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, Seigneur, on a besoin de ta grâce. On a besoin de ton assistance. On a besoin aussi de soumettre notre volonté à la tienne. Ce ne sont pas nos propres efforts seulement qui peuvent réaliser ces choses, mais c'est cette complémentarité, cette collaboration avec toi, cette soumission à toi, parce que c'est là ton intention, que nous te ressemblions de plus en plus. Et s'il y a des résistances en nous, nous te prions vraiment de pétrir nos vies et de nous permettre d'aller de l'avant. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, et aide-nous à aller de l'avant, de marcher à ta suite, parce qu'un jour, nous te verrons face à face. Nous ne sommes pas très loin de ce moment où on va te rencontrer. Aussi, nous ne voulons pas perdre courage, nous ne voulons pas démissionner, abandonner ou faire marche arrière, mais nous voulons plutôt dire, Seigneur, oh, renouvelle nos forces en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.